tabule. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur.
Ja, wie geht's denn? Ihr Livio O'Relep, le hit Morie, alles im Butter, on diffuse im Käse. Oh, pardon. Ce matin, par cette froide dure hivernale où la nature sommeille encore, je vous emmène en bateau. Non, je vous mène pas en bateau. Nan. Nous allons faire un voyage au fil de l'eau sur une barque de pêcheurs à fond plat sur les différents bras de l'île à Muttersholz avec un des derniers gondoliers qui mène sa barque avec bonheur. Amoureux de la nature, il connaît la faune et la flore comme sa poche tour. Nous allons faire une fabuleuse promenade à travers le Ried, près de Célesta. C'est un homme rare à qui j'ai fait une place avec grand plaisir. Salut Patrick Unterstock vom Ried. Grand merci de partager ce doux moment avec toi ce matin à cette belle radio.
Bonjour André, comment tu vas?
Bah écoute, moi je vais bien, je suis très content de partager un petit moment avec toi.
Bah moi aussi.
Toi aussi, t'as la patate, t'as toujours le sourire. Hein.
Bah oui, il faut.
Et alors dis-moi, comment ça va dans ton monde d'homme de la nature près de Muttersholz?
Bah écoute, en ce moment on a des inondations. Donc,
il n'a pas neigé ce matin chez toi?
Si, un tout petit peu, il a neigé et en fait il a pas mal plu ces derniers temps, surtout dans la partie orinoise. Et comme moi je suis dans le Bas-Rhin, ben voilà, on se prend toute l'eau du Haut-Rhin.
Et... C'est pas trop mal que ça aille là-bas plutôt
oui.
Que chez nous dans le Bas-Rhin.
Non mais de toute façon, ouais, c'est inondé, le Ried est inondé à cette époque de l'année et c'est magnifique hein, le paysage hein, parce ouais. que l'île déborde, il ouais. y a des cygnes dans les prés et s'il faisait un peu plus froid, on pourrait même faire du patin à glace.
Ah, génial. Mais écoute, on va rêver encore un petit peu. Dis-moi un petit peu comment c'est au printemps, en été, quand tu fermes les yeux. Raconte-moi un petit peu ce Muttersholz, ce Ried.
Au printemps, Muttersholz, c'est un écrin de verdure. On est entouré de prairies, de fauches. Et il y a énormément d'oiseaux qui viennent l'anicher. Alors bien sûr, si on a la chance de voir le rare courlis chanter, d'habitude il fait « Trudy, Trudy, Trudy ».
Ah ouais, ouais.
Et puis on a à Muttersholz en plus 30 nids de cigognes. Wow. Donc ça fait…
Mais sur les toits de la mairie ou alors…
Non, ils sont répartis vraiment dans le village. Donc c'est une colonie qui s'est installée. 30 nids, ça fait 30 couples, ça fait 60 adultes et chaque année ils ont entre 2 et 4 petits. Donc on a pas mal de bébés qui naissent à Muttersholz.
Mais ils partent pas sur les routes migratoires, au chaud, en Afrique?
En ce moment ils sont pas là, ils sont partis en fait.
En vacances?
Ben oui, ils sont partis et fin février, début mars, ils seront de retour et ça égaye le village.
Le village, ouais, c'est un beau village avec de belles maisons alsaciennes.
Mais bien sûr.
Et dis-moi, dans cette maison, comme il y a des inondations, il n'y a pas de keller, il n'y a pas de cave?
La plupart des maisons n'ont pas de cave, non. Donc il n'y a pas de vin.
Mais ils le mettent où le
ici,
vin?
Ici, on boit de l'eau en fait à Muttersholz, on boit de l'eau et de la bière, hein, puisqu'on a aussi une microbrasserie.
Toujours avec modération, quel.
Toujours avec modération.
Et dis-moi, le Muttersholz, c'est aussi le pays du Kelch avec le tissu alsacien.
Effectivement, on a une tradition de Kelch à Muttersholz. Donc, ce sont des tissus à carreaux rouge et blanc, bleu et blanc, vert et blanc pour des nappes, des rideaux. C'est du lin ou du chanvre qui a toujours été confectionné à Muttersholz.
Pour quelle raison à Muttersholz et par ailleurs?
En fait, c'était des tissages à domicile et on fabriquait à la maison. Donc, c'était souvent des paysans qui étaient tisserands en même temps, donc des doubles actifs.
Activité, quoi.
Et qui travaillaient aussi pour Sainte-Marie-aux-Mines.
Ah, pour le tissu.
Ils faisaient des choses à la maison, on leur faisait faire à la maison et ensuite ça partait sur Sainte-Marie.
Et alors, ça existe toujours aujourd'hui, le Kelch?
Ça a malheureusement disparu à cause de la disparition de Monsieur Gander, donc il y a quelques années. Il y a personne pour l'instant qui a repris, mais
la famille n'a pas repris les
non,
enfants.
Non, ils font d'autres métiers, donc
c'est dommage parce qu'il avait une belle usine avec des vieilles machines qui ressemblaient. T'as l'impression que c'était d'un autre temps, quoi.
C'est encore là. Ouais, c'est encore là. Maintenant, il faudrait trouver quelqu'un qui veuille reprendre.
C'est
quoi,
dommage
ça,
parce qu'il avait un magasin aussi.
Oui, il y avait un magasin. Oui, il y avait tout. Il y avait tout.
Bien, écoute, et dis-moi sur c'est le pays du Kelch, bien sûr c'est terminé, tu peux peut-être faire un appel pour dire si quelqu'un a envie de reprendre cette maison.
Bah oui, pourquoi pas. Si quelqu'un voulait reprendre cette maison, qui se sent, motivé, une âme de reprendre ça, pourquoi pas.
J'ai aussi lu que ton village Muttersols, en français, quand tu fais la traduction, c'est vrai que ça veut dire pois pourri, c'est vrai ça?
En fait, c'est Mietterscholz en alsacien. Donc ça voudrait dire littéralement, ce serait le bois de la mère, la maman. Mais en fin de compte, quelqu'un a trouvé au niveau étymologique quelque chose de différent. On a trouvé plutôt le bois qui a pourri dans le marécage, le bois qui est resté très longtemps dans
pétrifié
dans le marécage. C'est comme quand on trouve des bois, quand on fait de l'archéologie et on trouve un tronc d'arbre à une certaine profondeur. Donc il s'est pétrifié. Et puis, grâce à la dendrochronologie, on arrive à savoir donner un âge à ces arbres-là, éventuellement.
C'est dendrochronologie, ça reste un dessin. C'est le dentiste, ça
c'est non, le... non, 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 c'est l'étude des cernes du bois. Donc,
oui.
Voilà, donc on étudie les cernes du bois et comme ça, on arrive à déterminer l'âge de. C'est comme le carbone 14, quoi.
D'accord. Mais c'est même quand l'arbre est pétrifié, il y a toujours ces auréoles
autour. On arrive à voir, oui, oui. Arrive à dater les bois anciens grâce à ça.
Et ouais. c'est du bois de. Qu'est-ce qu'il y a comme essence de bois dans Muttersols, dans la forêt rhénane?
Si on prend le vaupin de Muttersols, donc
l'emblème,
les armoiries de Muttersols, on trouve le chêne pédonculé. On a des ormes aussi, de l'aulne, du saule. Ça, ce sont des bois qui supportent l'humidité constante, puisque on est dans un milieu humide. Et ce sont des bois qui poussent très rapidement en fait en plaine, plutôt que ceux qui poussent en montagne, qui ont des cernes beaucoup plus rapprochées et qui poussent très doucement en fait.
Et en fait, ces arbres qui ont vraiment les racines dans l'eau ne sont jamais malades en fait.
La plupart du temps, non. Ils sont sains. Ils sont adaptés au milieu naturel humide.
On en a même trouvé des médicaments, hein, je crois, de ces racines d'arbres.
Par exemple, le saule, on extrait l'acide salicylique, l'aspirine du saule. Et le castor adore ça. Hein. Moi, j'ai contribué à la réintroduction du castor à Muttersols.
Il y a combien d'années ?
Il y a une vingtaine d'années, je suis parti dans la Drôme, en Isère, et j'ai rapatrié avec le garde forestier de Célestat, et puis les associations, la ville de Célestat. Ouais, on avait monté un projet, et puis... Et on a rapatrié sur plusieurs années.
Ouais, je me souviens, on avait fait castors, des reportages à l'époque.
Maintenant, ils taillent des crayons à Muttersols. Ils fabriquent des huttes. Hein.
C'est un rongeur, en fait.
C'est le plus gros rongeur d'Europe. Il peut mesurer 1 mètre et peser jusqu'à 30 kilos. Et il a la queue plate, bien sûr.
Ah ouais. Biebschwanz, c'est ce qu'on
dit. Oui, les tuiles plates alsaciennes, donc dans la toponymie, dans les toponymes, Biebschwanz, où il y a des rivières, Biberpechl, la rivière du castor. Castor, voilà. Et puis, autrefois, c'était un animal qui était consommé en période de carême, parce que, on pensait que c'était un poisson, parce qu'il avait la queue plate et caillée. Donc, c'était un prétexte pour manger de la viande en période de carême. On le piégeait. Et on en extrayait l'acide salicylique. Donc le fameux castoreum. À quoi ça sert ce castoreum? C'est pour marquer son territoire en fait. Donc c'est comme du musc, ça sent très fort. Et à force de manger de l'acide salicylique du saule, en fait il va produire ce castoreum et il va faire son marquage territorial. Et donc autrefois, on l'attrapait pour extraire ce castoreum qui était utilisé dans les officines.
Bien sûr, mais ce rongeur, tu parles de ce rongeur qui est un animal extraordinaire et tu ne le vois que la nuit, hein. Il sort pas le jour. Hein,
effectivement, il est nocturne et il a parfois même une posture bipède et il a des mains, presque comme les humains ou comme les singes. Et puis il arrive à attraper un morceau de bois et à tailler un crayon, littéralement un crayon de castor. Quoi.
Tu penses qu'on descend des castors?
En fait, le castor, c'est un architecte de la rivière et il a quelque chose, proche de nous.
Proche de l'homme, tu veux dire, ouais.
Pas loin. Il y a quelque chose...
Une similitude, quoi.
Il sait faire des choses, vraiment. Il est très habile de ses pattes, ses mains avant.
Mais il t'abîme pas trop, la forêt, non?
Non, en fait, il va... Déjà, il va consommer que des saules. Donc, le saule n'a pas vraiment de valeur,
Ça pousse comme la mauvaise herbe,
Ça pousse... À partir du moment qu'il coupe un saule en crayon, il y aura 5, 6, 7 jeunes pousses qui vont repousser. Et donc, en fait, il va stabiliser les berges.
Ah oui.
Il va Oui, en fait, il contribue, on va dire, à la diversité de la rivière, en fait.
Et le saule, en fait, c'est Chevillitapalme en
alsacien. C'est Chevillitapalme. En latin, on dit salix.
Salix, ouais.
C'est la famille des salicacées.
Est-ce qu'on fait les corbeilles avec ça pour aller au marché?
Oui, dans le ride, bien sûr, il y avait toujours ce qu'on appelait
des kermors.
Des kermors, de Vidachriner.
Ah, Vidachriner, hein, c'est beau, ça, ouais.
Le menuisier des saules.
Ah, ouais.
Kermor, bon, ça avait un côté péjoratif, mais c'est vrai qu'autrefois, les saules, certaines variétés de saules étaient vita, suivant le terme, willow en anglais.
Ah ouais.
C'était utilisé pour faire des paniers pour le paysan qui ramassait les patates, le pêcheur qui utilisait la nasse en osier pour attraper des anguilles. Donc le saule avait de multiples utilités, en fait.
Et maintenant, aujourd'hui, quand je me balade au marché de la Robertsau ou à Strasbourg, je vois tous ces paniers avec les bobos qui vont faire leurs courses. Hein, die Städtler, qui vont faire les courses à Strasbourg. Ça a une autre fonction, c'est bien aussi.
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
Et alors, je sais aussi que tu, dans ton Muttersols, tu as aussi plusieurs activités, hein. Tu es aussi charpentier de la rivière. Ça veut dire quoi d'être charpentier de des rivières?
Je suis effectivement calfa, donc le charpentier.
Boss,
le calfa. Calfa,
c'est un vizir.
Non, c'est pas un vizir. C'est, en fait, ça vient de calfater, calfeutrer. Ça veut dire étanchéifier une barque. Donc, effectivement, je fabrique encore... je suis un des derniers en Alsace à fabriquer des barques à fond plat typiques du Ried.
Et qui c'est qui t'a appris ça?
On appelle ça des Beitlings.
Ouais, ouais.
En fait, à un moment donné, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui m'initie encore à la fabrication de barques. Et j'ai trouvé un vieux monsieur qui possédait ce savoir-faire et qui m'a initié à toutes ces arcanes de la fabrication.
Mais alors, qu'est-ce que tu prends comme bois pour faire ce...
Pour les longues planches, donc je fabrique des barques de 5 à 12 mètres de longueur. Donc il faut des planches en pin sylvestre, en douglas, que je choisis sur pied. Donc ce sont des arbres que je choisis sur pied en montagne, dans les collines sous-vosgiennes. Donc je vais voir des particuliers ou des forestiers et je choisis mes arbres sur pied. Et je les fais d'habitude couper aussi suivant la lunaison.
La lunaison ?
Mais oui.
Ah, c'est bien ça. Donc tu attends que la pleine lune soit là ou le croissant de lune ?
Donc il faut qu'il y ait le moins de sève possible dans l'arbre, en fait.
Ah, pendant les différentes lunes, l'arbre réagit avec la lune?
C'est un peu comme les marées. Marées, en fait, sont liées donc aux phases lunaires.
Ouais, mais les marées, je savais, mais les arbres, non.
Les hommes aussi, hein, on est lunatiques. Hein.
In the
mountain. In the mountain,
C'est vrai qu'on on marche avec la lune, c'est vrai que tu as bien raison. Ouais. Mais c'est un métier noble, quand même, de savoir travailler le bois.
Oui, alors il y a donc des résineux donc, pour les longues planches, et les traverses et les courbes. C'est du pin sylvestre. L'étanchéité se fait avec des roseaux ou de la sphaigne.
Tu veux dire que le bateau ne coule pas?
Je mets des roseaux entre les planches. Nos chevelles souffrent, ça gonfle.
Ouais, ça gonfle, ouais.
Et ça étanchéifie comme un tonneau. Hein, dans la tonnellerie, on utilise aussi...
Mais tu mets aussi du feu en dessous pour...
Alors, je cintre les extrémités de la barque. Et donc je cintre le bois effectivement donc à la vapeur. Donc je chauffe une casserole avec de l'eau.
Génial.
Et avec un cric à manivelle, à crémaillère,
à Holzwind.
Donc on élève les extrémités. Donc tout doit être étayé au centre et il faut avec des serre-joints donc ramener les planches et puis tout est cloué. Et donc c'est un boulot de charpentier.
Ouais, mais moi je pensais que tu mettais du macadam sur le truc.
Non, pas du tout. On utilise traditionnellement de l'huile de lin. Ah. Et à l'extérieur, autrefois, on utilisait de la poix, P-O-U-X. X. C'est de la résine de pin.
Ah ouais. Mais j'utilise ça aussi pour la pêche à la mouche, pour faire mes petites leurres. Tu sais, je mets de la poix comme ça pour caler, pour aussi calfeutrer.
C'est quelque chose qu'on trouve quasiment plus, ce produit-là. Hein. C'est très rare.
C'est vrai. Bon, moi, c'est des petits sticks que j'utilise comme ça, tu vois. Alors parle-moi, tu mets combien de temps pour fabriquer un bateau pareil?
Le temps qu'il faut. Hein. Ça dépend du pêcheur qui me commande le bateau. Souvent, c'est des pêcheurs, c'est des associations.
T'as pas de stress, quoi.
C'est des personnes qui sont... amoureux de la rivière, qui habitent au bord de l'eau, qui ont un étang, un chasseur, un pêcheur, dans la petite Venise à Colmar.
Ah, tu fais aussi les bateaux de la petite Venise?
Ah, bien sûr, oui, les bateliers maraîchers, par exemple, là, m'ont commandé deux bateaux. Les bateliers maraîchers de la petite Venise à Colmar m'ont commandé deux bateaux à fabriquer.
Mais c'est pour les touristes, c'est pas pour les poireaux, quoi.
Oui, bien sûr, ils vont utiliser ça pour promener des touristes. Moi-même, je promène des touristes en saison.
Oui, mais ça, je sais, ouais. Justement, et ça, c'est très simple.
Mais pas seulement des touristes, ouais. Aussi des Alsaciens.
Des Alsaciens, ouais. Mais écoute, je crois qu'on va juste se faire reposer un tout petit peu. Ah, mais j'avais une question intéressante encore avant de reposer les oreilles. Pourquoi tu pourrais pas proposer ça à la ville de Strasbourg pour te balader avec des barques à fond plat sur nos rivières, sur l'île, que de mettre ces bateaux mouches qui polluent et qui polluent la rivière avec leur diesel, ainsi de suite? Ce serait une bonne idée, ça,
ce serait super comme idée. En fait, je mettrais un peu de concurrence, en fait, sur l'île à Strasbourg. Et puis, c'est vrai que ça a un charme fou, ces barques à fond plat.
Ce serait plus belle
image,
parce
que dans la petite Venise, on pourrait mettre des couples parfois de mariés dessus, on pourrait faire de belles photos, ouais. Et les restaurants au bord de la petite Venise pourraient mettre ces barques à fond plat. Il y aurait un charme fou, quoi. Hein,
on pourrait proposer ça à la Navigation de Strasbourg et à Madame
pourquoi
le maire.
Pas, ouais, pourquoi
Madame
pas.
La maire, pardon, pourrait lui proposer ça, ce serait une belle image.
Exactement.
Mais écoute, on va s'en occuper tous les deux.
Ah, c'est un message lancé, là.
Exactement.
Voilà, exactement.
Bah, écoute, maintenant, on va s'occuper un petit peu de nos oreilles, on va les faire reposer, puis on va demander à notre aquarium, monsieur qui est dans l'aquarium, là derrière, de nous mettre la musique de Neil Young, un défenseur de la nature.
Hop là.
Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go.
C'est beau, hein, Neil Young. J'adore ce monsieur. Hein.
Superbe.
C'est un défenseur de la nature avant l'heure. Hein.
Bah oui.
Tu te rends compte un peu tout ce qu'il a fait pour la nature. Et toi, dis-moi, est-ce que tu écoutes de la musique dans un casque quand tu promènes tes gens sur les bras de l'île?
Moi, ma musique, en fait, c'est le son de l'eau. C'est les oiseaux, en fait. Hein. Les oiseaux, c'est... Voilà.
C'est comment le bruit de l'eau? C'est une œuvre d'art? Qu'est-ce que c'est comme musique quand l'eau... Quand ça clapote comme ça.
C'est invisible, en fait, c'est invisible, c'est inodore, c'est. En fait, c'est un bruissement, c'est juste. Ah ouais.
Et quand tu vas avec ton bateau, alors il glisse comme une lame de rasoir sur l'eau.
Voilà, et on entend juste ma gaffe qui pique dans la rivière.
La gaffe, c'est quoi? C'est des grandes pêches?
C'est une grande perche de 4-5 mètres de longueur. Que j'utilise donc pour manœuvrer l'embarcation.
Parce que tu n'as pas de moteur sur...
Non, sûrement pas. Non,
tu es musclore, alors?
J'utilise... Tu veux voir?
Je vois que t'es musclé.
Non, j'ai quand même... Il faut avoir une condition physique quand même, hein, pour transporter parfois 12-14 personnes mon embarcation. Et donc, mais je vais avec le courant quand même, hein. Donc, et parfois, je fais des dérapages contrôlés sur la rivière.
Tu
fais des 360 carrément.
Wow, wow.
Et donc, les gens, ils ont le tournis. Hein, donc,
ils
ça
ont...
tourne.
Et puis... c'est un carrousel, du coup.
Et oui, et puis parfois, on arrive dans des tourbillons géants. Et puis, un jour, je te raconte, on a été entraîné dans un tourbillon géant. Et puis après, on a navigué entre deux eaux. Et puis, 400 mètres plus loin, on a refait surface. Les gens, ils avaient tout plein d'algues sur le dos. Hein.
Waouh! Génial, excellent. Et donc... moi aussi, j'ai un souvenir avec toi lors d'un reportage pour le Goethe. Je me souviens, on était parti en fin d'après-midi et le ciel devenait tout noir comme ça. Les arbres commençaient à s'affoler. Il y avait une tempête. Et nous, on était là et la pluie commençait un petit peu à... Et avec ses grommelles, tu vois.
Ouais,
et j'en garde un souvenir extraordinaire. Et ça, on l'avait mis dans le reportage. C'était juste extraordinaire. C'est un truc qu'on ne peut pas oublier. Quoi,
ah oui, bah parfois, on est bousculé par les éléments, effectivement. Hein, donc, quand on part avec moi en barque, il peut y avoir tout d'un coup le vent qui se lève et puis ça peut être presque parfois l'orage Et puis voilà, donc c'est un jour il y avait même un tsunami, hein, donc on s'est retrouvé sur la vague et puis quelques kilomètres plus tard, plus loin, on s'est retrouvé au sommet sur la canopée de l'île Vald. Hein.
Ah ouais, carrément. Waouh, c'est de l'aventure avec toi. Hein. C'est génial. Est-ce que les gens sont heureux quand ils partent avec toi?
Je pense que oui. Je pense que c'est une expédition. Je pense qu'ils n'imaginent pas au départ ce qu'ils vont rencontrer, ce qu'ils vont entendre, ce qu'ils vont sentir. C'est en fait une balade des cinq sens, en fait. Peut-être même le sixième.
C'est quoi le sixième sens?
C'est se laisser porter...
Par la nature.
Voilà, et partir dans un monde imaginaire.
Est-ce qu'ils sont curieux, les gens? Est-ce que tu poses des questions par rapport à la faune et la flore?
Ils me posent pas mal de questions, ouais. Il y a parfois même des débats, hein, assez houleux parfois même. Quand je parle d'environnement, je titille parfois aussi. Hein, je lance des pics et puis je lance parfois aussi des problématiques d'environnement actuel. Manque d'eau. Par exemple, le manque d'eau en été, ça c'est les sécheresses qu'on a eues récemment. Il y a des cours d'eau phréatiques qui ont été asséchés. Et donc toute la faune et la flore qui a été détruite. Quoi.
Ah oui. Mais qu'est-ce que tu fais quand il n'y a plus d'eau avec tes barques?
Alors moi j'ai toujours d'eau, hein. J'ai toujours de l'eau. À Muttersols, on a de la chance qu'il y ait quand même pas mal d'eau encore, puisqu'il y a pas mal de résurgence de la nappe. Et donc après l'île, oui, il y a de l'eau et il y a des trous quand même jusqu'à 5 mètres.
Et l'eau, elle est translucide? C'est pas une eau polluée?
Quand il n'a pas plu en été pendant une semaine, deux semaines, l'eau, on voit très loin. On voit parfois à 2 mètres.
Hein. On voit les poissons
hein. Oui, on voit des poissons et parfois même des sirènes.
Ah, c'est pas vrai?
Mais si.
Ah, c'est pour ça que tu fais ce métier. Tu es un coquin, toi, je le savais. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'eau là-bas, qu'est-ce qu'il y a comme poisson, par exemple, dans cette rivière?
Il y a
de la perche.
On va dire qu'il y a quasiment tous les poissons d'eau douce. Il y a du brochet, de la perche, du sandre, du silure. Il y a des goujons, gardons, brèmes. Il y a de l'anguille. Et puis, il y a des poissons qui sont un peu envahissants actuellement. On parle du gobie. Le gobie qui vient du Danube et qui envahit nos cours d'eau. Aussi, une espèce de moule d'eau douce qui envahit énormément nos cours d'eau alsaciens.
C'est nuisible, ça?
On n'a pas assez de recul pour savoir si c'est nuisible. Je pense qu'à un moment donné, ça va stabiliser parce que ça va donner de la nourriture à d'autres poissons, à d'autres mammifères. Et donc, il y aura une autorégulation, je pense. Il y a un boom actuellement de ces gobies, mais on ne sait pas trop jusqu'où ça va être. Le problème, c'est qu'ils mangent pas mal le frais des poissons.
Ah oui, d'accord. De toute façon, la nature s'est toujours débrouillée sans l'homme. Hein. La nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle.
Bien sûr, il faut qu'on protège la nature, parce que si on ne protège pas la nature, l'homme va à sa perte.
Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on ferait sans elle?
Mais oui.
Hein? Écoute, je crois qu'on va encore mettre une petite musiquette que tu m'as demandé. Et Lucas, mets-moi une belle petite musiquette, là, les Stones, tu vois, que je t'avais demandé un petit truc parce qu'il est fou amoureux des Rolling Stones. Dis-moi, Patrick, tu fais tellement de choses dans ta vie. Tu es aussi un chercheur d'or. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu cherches?
Alors, je ne cherche pas de l'or, parce que l'or est dans le Rhin. Et dans l'île, il n'y a pas vraiment d'or. Hein. Bon, sur quelques paillettes, on pourrait tomber. Hein. Mais moi, je recherche... ça fait très longtemps que je fais des recherches sur historiques, en fait, sur la navigation...
Sur les bras de l'île?
Sur les bras de l'île, oui. Donc, je vais dans les archives hein, régulièrement et puis je fais des recherches, effectivement, pour connaître comment c'était autrefois la rivière, qu'est-ce qu'on y pratiquait, comment on pratiquait la pêche, quel type de pêche on pratiquait, quels étaient les types de bateaux qu'on utilisait au Moyen-Âge, etc. Donc moi, ça m'intéresse.
Tu veux dire que les bateaux à fond plat existaient toujours depuis la nuit des temps ?
En fait, pendant la période romaine, on a surtout utilisé des radeaux. On en a trouvé d'ailleurs des radeaux sur la Bruche qui ont navigué pendant la période romaine pour construire Strasbourg d'autrefois, donc Argentovaria, Argentoratum.
Ouais.
Et plus tard, donc, pendant la période du Moyen-Âge, donc, on a construit des barques à fond plat qui atteignaient parfois 19 mètres de longueur.
Wow, c'est énorme.
Et qui transportaient le vin entre Colmar, Ladhof et Strasbourg, ancienne douane.
Ah d'accord, mais on y mettait aussi des légumes, hein, je crois. Les maraîchers utilisaient ça, de la Roberto jusqu'à la ville de Strasbourg.
Tout à fait.
Ou à Colmar aussi, hein, ils utilisaient l'eau.
Localement, on utilisait effectivement des plus petites barques, donc des Weidling, qui étaient des barques de petit gabarit pour transporter donc les produits maraîchers. Il y a une Krutnau à Strasbourg, il y a une Krutnau à Colmar, et la Krutnau, c'est justement là le secteur des maraîchers. Hein.
C'était là où ils étaient autrefois, comme ici à la Roberto, à
tout
côté,
à
il y a le Leuch, c'est des poireaux. Quoi. Et
poireaux.
Tout ça, c'est vrai qu'ils emmenaient tout ça au marché de Strasbourg, dans les
villes. L'eau était une voie qui était prisée.
Qui était importante.
Voilà,
ouais,
qui était, ouais, et on ouais. pouvait charger. Et puis, on pouvait circuler très facilement sur l'eau.
Tout à l'heure, ce qui était très drôle, quand tu parlais de ta navigation avec tes touristes, est-ce que tu entends de temps en temps d'autres oiseaux? Parce que tu m'as fait le bruit du courlis. Comment c'est quand tu peux me faire d'autres bruits, par exemple, d'autres sons d'oiseaux?
Bah, qu'est-ce que je pourrais...
Le perroquet
Non, il n'y a pas de perroquet sur l'île. En fait, il y a parfois des cygnes hein, qui font... Qui s'approchent et puis oui qui font croc. Et puis oui il y a des oies aussi en ce moment, des oies d'Égypte qui sont assez envahissantes arrivent aussi
eux ils sont sur la route migratoire, j'imagine.
Et puis il y en a même qui restent en Alsace, qui bougent même plus, oui, des squatteurs, quoi. Hein,
bah ouais, on les comprend, on est tellement bien en Alsace.
Bah oui,
hein.
c'est ça, ouais.
C'est vraiment chouette, ouais, ouais. Attends, on va demander encore une petite musiquette avec Léo Ferré. Tu peux nous mettre, avant de terminer l'émission, on va mettre une petite musiquette.
Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait.
Une belle poésie, hein.
Superbe.
Avec le temps, tout s'en va, c'est vrai, c'est beau.
On dirait du Proust.
Exactement, ouais, certainement, il s'en est inspiré. Bah écoute, t'as quand même un très beau métier, Patrick, je trouve. Hein. T'as un métier magnifique d'être dehors, dans la nature, avec les gens. En hiver, quand il fait froid, tu es dans ton atelier, tu fais des bateaux, des niches d'oiseaux, parce que t'en construis pas mal aussi. Hein.
Oui, bah, y a rien qui se perd, tout se transforme. Donc, j'utilise le bois, les résidus de bois pour fabriquer effectivement des nichoirs d'oiseaux. Et,
de toutes
et
sortes d'oiseaux
choses.
De toutes sortes, de mésanges.
Ouais, mésanges, chouettes, chevêches... des pics, etc. Donc il y a énormément de...
Tous ces oiseaux, tu les connais parce que tu les vois pendant tes
promenades.
Oui,
je les entends et je les fais écouter. Donc, comme dit, c'est vrai que... Non, c'est magnifique.
C'est bien qu'il existe des gens comme toi qui aiment la nature, qui en parlent et qui font connaître la nature à tes touristes que tu emmènes. Je pense que les gens sont très sensibles hein, sur ce que tu fais.
Ils sont sensibles, oui, parce que c'est un bain de nature, c'est une découverte. On sort de chez soi et puis on rentre, on va sur une barque et puis on se laisse aller et on voit le paysage totalement différemment que ce qu'on voit quotidiennement en fait.
Tu aurais pas préféré être gondolier à Venise ?
Oh, de temps en temps, je me suis déjà posé la question, hein, je veux dire. Mais,
non, tu es bien à Muttersol.
Je suis bien à Muttersol. Tu es dans le rillette. Puis, comme dit, je suis un passionné. Hein,
je sais, ça se sent, ouais.
Je suis un passionné.
Bah, écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'étais très heureux de te revoir, de te rencontrer. Tu as toujours ton tenue de gondolier d'apparat.
C'est ça.
T'es beau comme ça, avec ton chapeau et tout. Merci
beaucoup, André.
C'est ce moment avec toi.
C'est moi qui te remercie, André.
Tu peux nous mettre le petit générique de fin? Comme ça, on va pleurer.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton